Chapitre 2. J'avais bien ouvert les yeux à la suite de cette conversation pour ne voir qu'une suite d'événements de l'ordre le plus vulgaire et qui excluait cette hypothèse d'un mari profondément, tragiquement romanesque, renouvelant le sacrifice du Jacques de George Sand d'une façon bien étrange. Quand on est dans le romanesque, où commence l'étrange, où finit le vraisemblable ? Tout de suite, la séparation Guenneville avait été réglée à l'amiable et sans autre scandale. Marie de Guenneville avait gardé l'hôtel, une rente considérable, et le public avait continué de ne savoir aucun gré à son époux de ses générosités, considérées comme forcées. Ni l'un ni l'autre n'avait essayé de transformer cette séparation en divorce. Le monde, en revanche, avait su gré de cette correction à la jeune femme par une de ces apparentes inconséquences qui provoquent l'indignation des moralistes à courte vue et dans lesquelles le philosophe admire l'infaillible instinct de la nature sociale. Le désordre d'une liaison, comme celle que Madame de Guenneville afficha, tout de suite aussi avec Barsac, sur ce point Langlois ne s'était pas trompé, représente une faute individuelle plus coupable en elle-même que la régularité du second mariage d'une divorcée. Mais quelle différence dans les conséquences ! Elle n'institue pas un type de société anarchique et sa dégradation la rend moins contagieuse. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'ils eussent tort ou non, les salons avaient donné raison aux deux amants contre le mari, qui, lui, paraissait bien donner tort aux théories d'Arthur Langlois sur le Brutus. S'il avait voulu jouer la comédie du vice et de la crapule pour dérouter les soupçons et dissimuler les véritables causes de la rupture avec sa femme, pourquoi continuait-il de cartonner, de boire et de s'afficher en mauvaise compagnie quand la légende de ses torts était établie ? Quoique, l'âge aidant, mes relations avec le monde des viveurs se fussent espacées de plus en plus, j'en conservais assez pour que des échos m'en arrivassent. Le nom de Théodore de Guenneville revenait sans cesse dans ses récits de grandes fêtes, attestant sa persévérance dans la dévotion à la dame de pique, à la dame de cœur et au démon des cocktails. Il se trouva d'ailleurs que je fis, coup sur coup, de longs voyages. Arthur Langlois mourut dans l'intervalle. Les jours succédèrent aux jours et le temps exerça son imperceptible et irrésistible force de changement sur mes habitudes et sur mes pensées, si bien que, ne rencontrant plus jamais Madame de Guenneville, jamais le petit Melchior de Barsac, jamais Théodore de Guenneville, cette aventure finit par reculer dans ces arrière-fonds de la mémoire, où l'on ne descend plus, sinon sous le coup d'un incident nouveau. Je n'en retenais guère que le paradoxe sur les Brutus. À maintes reprises, durant ces 10 années, j'avais eu l'occasion d'en constater la justesse, avec la persuasion que, dans le cas Guenneville, Langlois l'avait appliqué à faux. L'énergie de son affirmation, et surtout l'anecdote à l'appui, m'avait cependant impressionné plus profondément que je ne le savais moi-même. Il faut le croire. C'est la seule explication, j'allais dire la seule excuse, à une démarche d'une curiosité presque féroce que je vais raconter telle qu'elle. Je la blâmerai certes chez un autre, et j'ai bien du mal à la regretter. Sans elle, je n'aurais pas eu le dernier mot de cette énigme, si judicieusement entrevue par Langlois. Il eût fallu plus que de la jugeote pour en prévoir le dénouement. Ce fut un bout de dialogue, surpris dans une baignoire à l'opéra, qui provoqua chez moi cette crise de curiosité. Oh, quelques phrases très simples, mais elles me rendirent trop présent mon entretien sur le divan du Tripot avec mon ami disparu. Et c'est officiel, ce mariage de Melchior de Barsac ? Demandait une très jolie femme de l'âge qu'avait Madame de Guenneville 10 ans auparavant. Elle s'éventait coquettement en posant cette question à un de ses attentifs qui, trop heureux d'apporter une nouvelle fraîche, répondit « De ce soir même, j'ai dîné chez les Comtés, la mère de Barsac et la cousine de la duchesse. Ainsi, mon tuyau est de premier ordre. » « C'est pour cela que la loge de Marie de Guenneville est vide ce soir, » reprit son interlocutrice. « Je la croyais plus forte. On se montre quand un amant de 10 ans vous fait de ses tours. On n'avoue pas qu'on est lâché et désespéré de l'être. » Après tout, continua-t-elle après un silence, « ce serait peut-être une occasion pour elle de se remettre avec son mari. » Guenneville, dit un autre des hôtes de la loge, avec un rire gai. Ah, sa pire ennemie ne lui souhaiterait pas ça. Vous ne savez pas quel loque il est devenu. Dès les 10 heures du matin, il a déjà chargé, et sur le coup de minuit, il faut le voir chez Philips. Le nom de ce bar, célèbre dans ma jeunesse parmi les hommes de chevaux, et où l'on a pu voir des princes de sang royal boire de l'alcool anglais avec des bookmakers, ne m'avait pas frappé d'abord d'une façon particulière. Puis, à mesure que j'écoutais la musique d'une oreille distraite, la pensée errant ailleurs, comme il arrive à tous ceux qui ne sentent cet art qu'animalement, une tentation commença de s'éveiller en moi, celle de retourner dans ce pittoresque endroit après le spectacle. Pourquoi ? Je n'aurais trop su le dire. Si Guenneville était là, suivant l'habitude que la chronique des clubs lui prêtait évidemment, quel intérêt avais-je à constater sa déchéance ? Je le connaissais à peine autrefois et ne l'avais plus rencontré de si longtemps. Était-ce la peine d'aller subir, en repassant le seuil de cette taverne, une autre crise de cette lassitude de survivre ? Tant de mes compagnons sont partis, avec qui je finissais mes soirées dans cet antre d'ivresse, mais aussi de gaietés insouciantes et d'amusantes observations. Cette question se posa tout d'un coup à moi, comme je poussais le battant de la porte qui donne accès au bar de Philips, du côté de la rue Godot de Mauroy. J'avais marché de l'opéra jusque-là, presque sans y prendre garde, avec cette espèce d'automatisme dont on est possédé quand on cède à des mobiles secrets dont on n'a pas tout à fait conscience. Du premier coup d'œil, je constatai que la longue salle n'avait pas changé. Le même comptoir se développait avec la ligne des minces tonneaux derrière et, sur le marbre, tout l'appareil destiné à la confection des Manhattan, des Widow Smile et autres drinks. Les mêmes tabourets hauts se dressaient auprès et servaient de siège à quelques élégants qui continuaient la tradition des Casals, des Herbert Bohume de Varde, des Machaud, de tous les viveurs aujourd'hui endormis dans la tombe ou remisés dans le mariage, qui avaient fait la vogue de cette boutique de poison. Les mêmes gravures de course décoraient les murs et les mêmes portraits d'entraîneurs. Le même relent de gin et de tabac de Virginie saturait l'atmosphère. Au fond, une autre porte ouvrait sur une étroite salle. J'y allais tout droit, sachant que c'était l'asile des vrais habitués du lieu, de ceux qui s'intoxiquaient sérieusement des heures durant. Là, écroulé sur un divan, le coude sur une table de bois et le menton sur sa main, je reconnus celui que je cherchais, Guenneville en personne. Oui, c'était réellement, comme avait dit l'autre, une loque humaine. Le fier garçon de 40 ans que j'avais dans la mémoire, hautain, fringant, portant beau, était un vieillard de l'espèce ignoble, le teint bouffi, les prunelles injectées de sang et prises entre les poches larmoyantes des paupières, les joues marbrées de taches rouges, la lèvre humide et pendante. Seule, la tenue, demeurée correcte, trahissait les anciennes habitudes du gentleman. L'alcoolique était en frac, en gilet blanc, un bouquet à la boutonnière toujours, et sa tête blanchie était coiffée d'un chapeau haut de forme qui luisait sinistrement sous la clarté crue de l'électricité. À quel chiffre de cocktails en était-il ? Les soucoupes amoncelées autour de lui le racontaient trop, et l'état de stupeur assommé où je le voyais. J'aurais dû, devant ce tableau d'une immonde déchéance, me retirer aussitôt. Le geste des fils de Noé nous enseigne la seule attitude qui soit vraiment charitable devant les hontes d'un autre. Faciès et Orum aversaient et rentes. Leurs visages étaient détournés. Au lieu de cela, je m'assis à côté du malheureux qui parut ne pas même me voir et je me nommai en lui posant une question sur sa santé comme si nous nous fussions quittés de la veille. Je comptais, et mon calcul se trouva juste, sur l'incapacité des ivrognes à s'étonner. Celui-ci, en effet, ne fut aucunement surpris, ni de ma présence, ni de ma demande, et il me répondit d'une bouche pâteuse « Mais je vais très bien, très bien !» À ce moment, et comme je le voyais dans l'état de demi-conscience qui est la forme de la griserie chez les professionnels du terrible vice, je fus saisi de cet accès de curiosité féroce auquel j'ai déjà fait allusion. Je regardai autour de moi pour bien m'assurer que nous étions absolument seuls et, sans préparation, je l'interrogeai. « Vous vous rappelez Melchior de Barsac, monsieur de Guenneville ? » Je m'attendais qu'à ce nom, un tressaillement crispât le masque du mari trahi, que sa prunelle brillât, qu'il esquissât un geste. Il eût eu devant moi un sursaut de colère, et j'en eusse été la victime que cela m'eût paru trop naturel. Il se contenta de répliquer, avec hébétude, « Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Pour rien, répondis-je, j'ai appris aujourd'hui son mariage, voilà tout. »« Pourquoi me dites-vous cela encore ?» reprit l'ivrogne. Il eut un sourire presque égaré, puis, haussant les épaules, « Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse ?» Maintenant. Ce dernier mot avait été prononcé d'un ton différent du reste du discours, comme si une fibre avait remué dans cette torpeur. En rédigeant aujourd'hui le compte rendu de ce fantastique dialogue, je n'arrive pas à comprendre que je l'ai poussé plus avant. Mais qui a pu être possédé du passionné désir de tout connaître du cœur humain et ne pas céder, dans de certaines heures, à ce besoin de l'expérience, j'allais dire de la vivisection, cruel délice aussi des physiologistes? On dirait que la nature, pour nous prouver que la science de la vie nous est défendue, nous condamne à torturer l'âme et la chair dont nous cherchons à saisir le suprême secret. Je m'entends encore, insistant avec une dureté de bourreau, dont j'ai honte à présent, sur ce point malade. Maintenant, alors, vous n'auriez pas permis ce mariage autrefois? Puis, brusquement, c'est ce que m'avait dit Arthur Langlois. Vous n'avez pas oublié Arthur Langlois? Non. Ni une certaine conversation que vous avez eue avec lui dans les premiers temps où il avait été présenté à Madame de Guenneville. Voyons, rassemblez vos souvenirs. Et je répétais, j'eus l'audace de répéter la phrase que m'avait dite Arthur. Si vous me la prenez, vous la garderez. Est-ce vrai que vous lui avez parlé ainsi? Rappelez-vous. Cette fois, l'ivrogne m'avait regardé d'un regard que moi, je n'oublierai jamais. Si j'ai commis un véritable crime de lèse-humanité en abusant du demi-coma où l'eau-de-vie avait plongé l'intoxiqué pour lui arracher une confession, certes, j'en ai été puni par ce regard, tellement il y passa d'horreur pour moi et de souffrance. Il essaya de se lever, puis ses jambes lui refusant le service, tant il était ivre, il retomba sur le divan et il eut un affreux rire, presque un hoquet. Ce sursaut spasmodique avait été un de ces réveils, aussi subits que momentanés, dont sont coutumiers les infortunés tels que lui, pauvre machine nerveuse désaccordée, où les volontés sont des velléités, où aucun sentiment n'est plus stable, aucune émotion fixe. Les images que j'avais suscitées en lui avaient comme produit une poussée congestive, transformée aussitôt en une convulsion. Puis, en quelques secondes, un affaissement avait succédé, et il se parlait à lui-même, en proie à la loquacité incohérente de l'alcool, simple excitation corticale, toute mécanique, et qui alterne avec d'imbrisables silences. « Qu'est-ce que cela me fait ? » disait-il, et il employait un verbe plus énergique et plus grossier que l'on devine. « Oui, qu'est-ce que cela me fait ? » ?»« Langlois ? » ?»« Oui, Arthur Langlois, je me souviens bien. » »« Joli garçon, il est mort. » Il a eu peur, lui, quand je lui ai parlé. L'autre, pas. Elle et lui penseront que c'est moi qui ai eu peur. Qu'est-ce que cela me fait ? Toujours le même terme sinistrement abject. Dans les premiers temps, je buvais pour que l'on ne comprît rien. À présent, c'est autre chose. Il avisa son verre à demi vidé, le saisit d'une main dont je remarquai le tremblement, et, le portant à ses lèvres, il ingurgita une lampée. « Voilà qui ne ment pas !» dit-il, en me regardant cette fois et en clignant de l'œil, avec une gaieté dont je frissonnais. « Mais qu'il se marie ! S'il vous a envoyé savoir ce que je ferai, vous pouvez lui dire qu'il épouse !» ricana-t-il. « Et si c'est de sa part à elle que vous venez, même réponse !» Il répéta, d'une voix redevenue pâteuse, « Même réponse ! Même réponse !» Il avait repris son verre et qu'il acheva de vider pour s'appuyer ensuite contre le dos de la banquette en fermant les yeux comme s'il allait dormir. Ce sommeil était-il simulé? Était-il sincère? Je sais seulement qu'il ne battit même pas des paupières tandis que je me levais, bouleversé de cette courte scène, au point qu'il m'est presque insupportable de la rapporter. et je m'échappai de cette taverne sans avoir le courage de prolonger cette inhumaine enquête. J'en savais assez pour comprendre que Langlois avait eu raison. Gainneville avait fait le Brutus, comme il disait. Il avait joué la comédie de la débauche par une chevalerie singulière, lui, le bourgeois qui avait épousé la demoiselle noble. Puis il était devenu réellement le personnage qu'il avait d'abord feint d'être. Le masque avait collé à la peau. La simagrée du vice s'était changée en une réalité et je venais d'assister au dernier acte de cette tragédie. Je n'en connaîtrai jamais de plus poignante.